Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Par la grâce de Dieu, je me porte bien, ainsi que mon épouse et mes enfants. Et donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble et je veux croire qu'elle sera encore fortifiée nos cœurs et nos âmes. Vous le savez, depuis le début de l'épidémie du coronavirus, on nous parle beaucoup de gestes barrières qui sont utiles pour nous protéger, pour protéger les autres. Ces gestes barrières servent quelque part à combattre le virus ou tout au moins le limiter dans sa propagation. Et ces gestes sont divers et variés. J'en cite quelques-uns. Par exemple, se laver régulièrement les mains, saluer sans serrer la main, éviter les embrassades, tousser ou éternuer dans son coude, respecter les distances entre individus, etc., etc. Eh bien, de la même manière, j'ai trouvé pour nous, chrétiens, trois attitudes barrières qui vont nous aider à faire face à toutes sortes d'épreuves. Alors, la question est-ce que vous voulez les connaître? Et si oui, eh bien, tout simplement, je vous encourage à prendre un verset du Nouveau Testament qui se trouve dans l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 12 et le verset 12. Un texte qui est très court, mais qui sera encore ce matin nous instruire les uns les autres. Romains, chapitre 12, verset 12, nous dit la chose suivante. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Et enfin, persévérez dans la prière. » Je me permets de le relire, il est tellement court. Romains 12, 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Ainsi, dans ce verset que nous venons de lire et qui est facile, je l'ai dit, à mémoriser, nous découvrons trois attitudes barrières qui nous seront très utiles pour être victorieux de l'épreuve. Et je vous propose, vous l'avez compris, donc de les regarder un peu plus en détail. Et pour ce faire, on va commencer par la première attitude barrière énumérée dans ce passage de la Bible. Il nous faut donc nous réjouir en espérance. Et certains pourraient me dire, mais en plus à juste titre, mais comment se réjouir dans le contexte actuel? Comment se réjouir en étant depuis plusieurs semaines, par exemple, confiné tout seul dans un petit appartement? Comment se réjouir quand on apprend que le Covid-19 continue à faire des milliers de victimes par jour dans le monde? Oui, comment, Joël, se réjouir quand toutes sortes de pensées s'agitent au-dedans de nous, comme par exemple, est-ce que tel ou tel membre de ma famille va survivre du Covid-19 dont il est gravement atteint? Ou un autre pourrait bien penser la chose suivante, vais-je perdre mon travail ou mon entreprise avec cette crise économique et même financière qui semble se dessiner petit à petit? Pourrais-je passer mon examen? Là, c'est un étudiant qui pourrait se poser la question. Pourrais-je passer mon examen avant cet été ou devrais-je devoir attendre le prochain semestre? Que de questions qui pourraient traverser notre esprit. Il y a un passage que je voudrais placer devant nos yeux, au travers de ce message, c'est le psaume chapitre 94 et le verset 19. Psaume 94, le verset 19. L'auteur du psaume, dont on ne connaît pas le nom, s'est exprimé de la manière suivante. « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Écoutez-moi bien, quelle que soit l'épreuve qui viendrait nous malmener, quelle que soit l'épreuve qui viendrait nous surprendre, nous secouer, voire même nous attrister, un tant soit peu, cette épreuve ne pourra jamais anéantir notre joie surnaturelle qui a été engendrée par notre salut et aussi notre espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et des exemples, il y en a tellement. Au beau milieu, par exemple, de sa terrible épreuve, notre ami Job a su se réjouir de ce qui appartenait à son espérance. Espérance que personne ne pouvait lui enlever, pas même les souffrances qu'il était en train de vivre. Job, chapitre 19, du verset 23 au verset 27 nous le confirme. On va le lire, Job chapitre 19, versets 23 à 27. « Oh !» s'exprime-t-il, « je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Cet homme revendique eh bien, son innocence, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas l'enjeu qui se trouve, l'enjeu spirituel qui se trouve au-dessus de sa tête. Et il pense à un livre qu'il pourrait écrire, sur lequel il pourrait écrire eh bien, sa vie droite. C'était un homme intègre, un homme qui aimait Dieu, mais qui ne comprenait pas la tourmente dans laquelle il pouvait se trouver. Mais au verset 25, Job 19, verset 25, on voit que cet homme eh bien, décide eh bien, de regarder beaucoup plus loin, comme s'il levait la tête et il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Ainsi, quelque part, malgré la souffrance de son épreuve, Job se réjouit de ce qui est encore à venir. Il parle de ce jour où ses yeux verront son Dieu. Telle est, quelque part, sa consolation et son espérance dans son épreuve. Alors, lorsque l'apôtre Paul nous exhorte à nous réjouir en espérance, il nous invite de même à détourner notre regard des choses éphémères et trop souvent décevantes de ce monde, afin de porter notre regard vers les choses spirituelles et éternelles du ciel. En effet, l'espérance nous invite toujours à porter notre regard vers ce qui est encore à venir. Car le meilleur est encore à venir. Le meilleur est devant nous. Jésus-Christ a dit à ses disciples à un moment donné, alors qu'ils étaient quelque peu abattus, Jean chapitre 16, verset 22, nous lisons ensemble Jean chapitre 16 et le verset 22, Jésus qui parle à ses disciples et dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » En effet, tant que nous demeurons sur cette terre, eh bien notre vie sera toujours sujette eh bien, à des moments d'épreuve et même de tristesse. Mais voyez-vous, lorsque Jésus-Christ viendra nous chercher, alors nous vivrons éternellement dans le paradis de Dieu et nous serons envahis par une joie parfaite et éternelle. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. C'est pour ça que quelque part, eh bien, l'apôtre Paul, autre part, va dire, Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ainsi, le fait de se réjouir en espérance devient en nous une force, devient en nous une protection, une forteresse qui nous aide à être inébranlables lorsqu'il nous faut traverser les adversités de la vie. Quelque part, j'ai envie de dire que pour nous, chrétiens, nous sommes appelés à ressembler, vous savez, à la femme vertueuse du Proverbe au chapitre 31. Et on le voit bien d'une manière particulière au Proverbe chapitre 31, le verset 25. Eh bien, nous sommes invités à pouvoir ressembler à cette femme vertueuse quand il est dit d'elle au verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. J'aime cette expression, elle se rit de l'avenir. Alors que beaucoup de gens de ce monde s'angoissent au sujet de leur avenir et même celui de leurs enfants, alors que les gens sont de plus en plus inquiets, j'ai envie de dire perplexes, concernant le devenir du monde entier, eh bien nous, enfants de Dieu, tout comme la femme vertueuse dans ce chapitre 31 au verset 25, nous accueillons l'avenir d'une manière sereine. Pourquoi je dis cela ? Eh bien, parce que notre avenir, tout comme notre devenir, je ne fais pas un jeu de mots, eh bien, se trouve dans le creux de la main de notre Dieu. C'est un avenir joyeux, c'est un avenir glorieux qui nous attend, mes frères et mes sœurs. C'est un avenir qui perdurera jusque dans l'éternité. C'est un avenir qui a pris naissance le jour où nous avons confié notre vie à Jésus-Christ. Le jour où nous nous sommes repentis, convertis à Dieu. Et le jour où nous sommes devenus potentiellement des fils et des filles à la gloire de Dieu le Père. Oui, nous pouvons nous réjouir en espérance, quelles que soient bien les circonstances qui pourraient nous entourer. Oui, nous pouvons nous réjouir en espérance, même au beau milieu de la tempête, même au beau milieu de l'épreuve, parce que nous avons une totale confiance que le Seigneur sera pour nous ce puissant secours qui ne manquera jamais, au grand jamais, dans la détresse. Jésus a donné à ses disciples une merveilleuse promesse que vous connaissez tous. Avant de remonter au ciel vers son Père, il a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Jusqu'à la fin du monde. Par ailleurs, c'est Moïse qui, pour encourager Josué, qui devait prendre maintenant et donc le relais pour emmener tout le peuple d'Israël dans le pays promis, le pays de Canaan, il va lui dire la chose suivante, une autre promesse qui finalement concerne tous les enfants de Dieu. Deutéronome chapitre 31 et le verset 8, un verset que j'affectionne d'une manière particulière, que je prends déjà pour moi et que je vous encourage à prendre aussi également pour vous, Deutéronome chapitre 31, verset 8. « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point, te dit ton Dieu. » Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous n'avons pas à craindre ni des choses présentes, ni de celles qui sont à venir, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains. Au contraire, réjouissons-nous en espérance, car voyez-vous, le meilleur est encore devant nous, le meilleur est à venir. Voilà donc une première barrière. Une attitude barrière qui nous permet bien d'être inébranlable lorsque même nous sommes ballottés par l'épreuve, par la tempête. Il y a une deuxième attitude barrière qui va nous aider à triompher de l'épreuve. C'est celle que, bien sûr, nous avons lue dans Romains, toujours Romains chapitre 12, verset 12. Nous venons de voir « Réjouissez-vous en espérance ». Et la deuxième attitude barrière, c'est la suivante « Soyez patients dans l'affliction ». D'autres versions vont exprimer la chose suivante, « Soyez patient dans la tribulation, dans l'épreuve, la souffrance, la détresse, la calamité. » C'est tout ça, c'est pareil. Dans ce verset, finalement, Paul nous encourage à être patient, endurant, résilient face à la détresse ou l'épreuve que nous pourrions traverser. Et quand on parle de patience, il faut reconnaître qu'il y a tellement de domaines dans la vie où nous avons besoin d'être patients. Patients déjà à l'égard d'autrui, à l'égard du prochain. Patients à l'égard de nous-mêmes. Quelquefois on est patient à l'égard des autres, mais on n'est pas patient à notre égard. Patients à l'égard des promesses que Dieu nous fait et qui quelquefois tardent à se réaliser dans nos vies. Patients par rapport au retour du Seigneur Jésus. Car c'est vrai, il a dit qu'il revient bientôt. Mais s'il y a bien un domaine où nous avons besoin d'être patients, c'est lorsque nous traversons une épreuve difficile qui semble perdurer dans le temps. C'est là où c'est difficile. C'est là où c'est fatigant, où c'est épuisant. Lorsque nous sommes comme dans un tunnel dont nous n'en voyons pas la fin. Lorsque nous nous questionnons ou même nous questionnons Dieu et nous lui disons « Mais Seigneur, jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand vais-je devoir supporter cette épreuve ? Alors être patient dans l'épreuve, comme attitude barrière, c'est bien. Oui, ok, je suis d'accord. Mais la vraie question est comment arriver à être patient dans de telles circonstances ? Et la question, elle est concrète, elle est pertinente. Et je voudrais juste vous donner quelques pistes pour peut-être y répondre. Comment être patient ? Lorsque l'affliction vient nous frapper, lorsque l'épreuve vient à frapper à la porte de notre cœur, déjà par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où il faut être honnête, la patience, on le sait, n'est pas une vertu qui est innée chez l'homme. On peut voir ça et là quelques hommes qui se démarquent de tout le reste à cause d'une certaine patience, mais la patience de l'homme, on le sait, a ses limites. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, par son Esprit, est prêt à nous venir en aide. La Bible désigne la patience comme étant l'un des fruits, les fruits de l'Esprit de Dieu. On peut lire ensemble Galates chapitre 5, verset 22, qui le confirme. Galates chapitre 5, verset 22, il nous est dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ainsi, plus je serai rempli de l'Esprit de Dieu, plus je manifesterai, bien sûr, les fruits de l'Esprit. Et entre autres, je manifesterai la patience, d'où l'importance bien pour nous, tout à nouveau, de dire au Seigneur, mais remplis-moi de ton Esprit Saint. La Bible nous invite à être continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est pour qu'en retour, nous puissions manifester bien les fruits de l'Esprit. D'ailleurs, une personne qui est bâtie dans le Saint-Esprit, on sait le reconnaître parce qu'il manifeste immanquablement les fruits de l'Esprit. Oui, on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Et surtout, lorsque on se laisse conduire, on se laisse diriger par l'Esprit de Dieu, alors ce dernier, il nous aide à manifester de la patience. Et non les fruits de la chair, parce que ce qui s'oppose aux fruits de l'Esprit, c'est bien sûr les fruits de la chair qui sont par exemple l'impatience, mais oui, l'intempérance, l'animosité. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. La Bible dit clairement, Galates chapitre 5, verset 16, Jésus, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors demandons à Dieu qu'il nous remplisse tout à nouveau de son Esprit Saint, afin que nous puissions savoir être patients dans les épreuves. On peut également être patient dans l'épreuve, dans l'affliction, au travers de l'amour. Et pour décrire les caractéristiques de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul, encore, dans sa première épître aux Corinthiens, a utilisé plusieurs qualificatifs. Et le premier qualificatif que l'on retrouve, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et le verset 4, il nous est dit que l'amour, en tout cas l'amour agapé, l'amour de Dieu, il est patient. Quelqu'un, d'ailleurs, a dit, à juste titre, que la patience, c'est quoi ? La patience, c'est la moelle de l'amour. Et je trouvais ça beau. J'ai dit, tiens, on va le partager. La patience est la moelle de l'amour. Et quelque part, l'amour et la patience sont comme deux termes qui sont compatibles entre eux. Lisez, par exemple, avec moi ce que Paul demande à Dieu pour les chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Thessalonique. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Nous lisons ensemble. 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et le verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. En fait, l'amour de Dieu a la capacité de nous rendre patients dans toutes sortes de souffrances extrêmes. C'est pour ça que quelque part, on voit cette compatibilité entre l'amour de Dieu et le fait d'être patient. Et cet amour patient, on l'a vu au travers de la personne de Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il a marché sur cette terre. Il a manifesté cet amour patient au travers des souffrances qu'il a endurées sur la croix. Cet amour patient, Jésus l'a toujours manifesté à l'égard de l'humanité entière. Il la manifeste encore à notre égard. Et même la deuxième épître de Pierre nous rappelle que si Jésus n'est pas encore venu, ou revenu chercher les siens, c'est parce qu'il use de patience envers plusieurs, car Jésus désire les sauver de la perdition. Et là encore, c'est finalement l'amour patient de Dieu qui est manifesté. Et pour nous, cet amour patient de Dieu peut se manifester dans nos épreuves. Lorsque, par exemple, nous pardonnons pour la énième fois à celui ou celle qui nous a, pour la énième fois offensé. Car voyez-vous, l'amour de Dieu nous permet d'être plein de résilience, nous permet d'être plein d'endurance, de longanimité à l'égard du prochain. Oui, l'amour est aussi un moyen efficace pour être patient dans les épreuves et patient dans l'affliction. Comment arriver à être patient lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous traversons la tourmente, peut-être une dernière réponse, par les Écritures, par la parole de Dieu. Et regardez avec moi ce passage dans Romains chapitre 15 et le verset 4, qui va au final confirmer ce que je suis en train de vous dire. Il nous est dit, « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je répète. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc finalement, la Bible communique, donne de la patience. Alors la question est évidente, comment la Bible peut-elle communiquer de la patience? C'est très simple, par le témoignage de plusieurs personnages de la Bible qui, à un moment donné de leur vie, ont su manifester de la patience. Une patience qui va alors nous inspirer et que nous allons prendre comme modèle dans notre propre vie. C'est ce que d'ailleurs dit notre ami Jacques, l'apôtre Jacques, dans son épître, Jacques chapitre 5, verset 10. Il dit, Jacques chapitre 5, verset 10, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Donc, en lisant la parole de Dieu, nous pouvons nous laisser inspirer. On trouve comme des modèles à suivre, des exemples à suivre. Et le parfait des exemples, c'est celui du Seigneur Jésus. Alors, quelque part, la méditation de la parole de Dieu va susciter la foi dans nos cœurs. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est justement cette même foi qui va nous aider à patienter dans les situations auxquelles nous pouvons être confrontés. D'où l'importance, bien sûr, de continuer de lire et de méditer la parole de Dieu. Voilà quelques exemples, quelques réponses qui pourraient nous aider à être patients dans l'affliction. J'ai parlé de trois attitudes barrières. Nous venons d'en voir deux. La première, je la rappelle, le fait de se réjouir en espérance. On vient de voir cette deuxième attitude barrière qui consiste à être patient dans l'affliction. Il nous faut terminer, bien sûr, avec la troisième et dernière barrière que je vous propose de voir ensemble, celle qui consiste à persévérer dans la prière. On l'a lu, Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction et enfin, persévérez dans la prière. La Bible à maintes reprises nous invite vivement à persévérer dans la prière. Et je sais que vous le faites tous. Je bénis le Seigneur pour tous ces réponses à nos prières lorsqu'on prie les uns pour les autres, surtout dans cette période très difficile. Mais Dieu nous exerce à pouvoir prier les uns pour les autres et la joie que nous avons de pouvoir voir les exaucements à nos prières, que Dieu soit béni. Oui, à maintes reprises, la Bible nous invite à persévérer dans la prière. Par exemple, je vous cite quelques passages. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il nous est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Quand l'apôtre Paul avait fini d'énumérer ce verset, les versets précédents, il était en train de désigner toutes les armes spirituelles. Et on en retrouve six. À commencer par le casque du salut, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité à nos reins, et quoi d'autre encore, la cuirasse de la justice, et puis également les souliers que donne le zèle de l'évangile. On en trouve six. Mais on pourrait même parler d'une septième arme, et cette septième arme, c'est celle qu'on retrouve au verset 18, justement, quand l'apôtre Paul nous dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. » On a besoin de persévérer dans la prière et ne jamais nous relâcher. Autre passage, c'est Colossiens chapitre 4, verset 2, où il nous est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Une prière persévérante qui consiste aussi à abonder en reconnaissance, en remerciement. « Seigneur, merci parce que tu m'as donné à voir le jour aujourd'hui. Merci parce que tu me gardes de tout danger, tu me gardes de tout accident, tu gardes ma famille, tu gardes mon présent, tu gardes mon avenir. Je te rends grâce, je te loue. » C'est ça. De pouvoir persévérer dans la prière en y ajoutant des actions de grâce. Jésus lui-même nous a rappelé à travers la parabole de la veuve et du juge inique, qu'il nous faut toujours prier et jamais nous relâcher. Vous avez certainement dû lire déjà cette parabole qui se trouve dans Luc chapitre 18. Je vous encourage à pouvoir lire cette parabole chez vous tranquillement. Luc chapitre 18 du verset 1 à 8, on ne va pas le lire, mais à travers cette parabole, finalement, Jésus raconte l'histoire d'une pauvre veuve qui, grâce à sa persévérance, a fini par obtenir gain de cause auprès d'un juge inique qui, au départ, ne voulait rien entendre. Au départ, ne voulait pas faire justice à la veuve. Mais finalement, alléluia, à force de persévérance, cette dame, je la vois, cette pauvre veuve, eh bien, a harcelé presque et a persévéré, a demandé justice auprès de ce juge, eh bien, a trouvé gain de cause. Finalement, eh bien, Jésus, par cette parabole, a voulu nous enseigner sur l'efficacité de la prière, mais la prière persévérante. Car de manière générale, la persévérance finit toujours par payer. C'est juste une question de temps. Regardez comment les flots de la mer finissent par éroder petit à petit. Et avec une inlassable persévérance, les rochers les plus durs de nos côtes françaises. Mais voilà, Jésus, à la fin de cette même parabole, du juge inique et de la pauvre veuve, va ajouter juste une question. Une question qui ne peut que nous interpeller. On peut la lire, Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, verset 8, je vous laisse le temps de trouver le passage. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question de Jésus est très pertinente, car quelque part la foi va de pair avec la persévérance. En fait, notre persévérance sera fonction de notre foi. Or, Dieu, notre Père, désire exaucer nos prières. À plus forte raison lorsque nous sommes dans l'épreuve. D'ailleurs, il est dit autre part, c'est dans l'épître de Jacques. Lui-même, Jacques va dire, mais quelqu'un est-il dans la souffrance? Eh bien, qu'il prie. Et si, eh bien, par la bouche de l'apôtre Jacques, le Seigneur, eh bien, nous encourage à prier, c'est parce que quelque part derrière cela, il veut, eh bien, que nous ayons la joie de voir nos prières être pleinement exaucées, parce que Dieu veut nous bénir. Mais il nous demande de lui faire confiance et de persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'il nous réponde. Et je précise, jusqu'à ce qu'il nous réponde en son temps à lui. Car en effet, dans une société où tout va très vite, nous sommes souvent impatients lorsqu'il faut attendre la réponse de Dieu. Et si la réponse ne vient pas, j'ai envie de dire, allez, j'exagère un peu, mais dans la minute qui suit, alors nous nous relâchons dans la prière. Nous oublions alors que Dieu est tout puissant pour nous accorder ce que nous lui avons demandé. Et nous oublions aussi qu'il sait aussi quel est le moment propice pour nous l'accorder, car il fait toute chose belle en son temps. Vous savez, Dieu n'a jamais de retard dans ce qu'il veut nous donner. C'est nous qui sommes bien souvent impatients ou même trop pressés. Alors, lorsque nous prions Dieu notre Père, soyons remplis de foi et de persévérance. Ayons une pleine assurance qu'il va nous exaucer au bon moment pour la gloire de son nom. Dieu veut nous bénir. Dieu veut notre bien. Dieu veut que nous soyons plus que vainqueurs et victorieux. Et pour cela, il nous a donné un moyen pour entrer et demeurer, entretenir une communion avec lui par le biais de la prière. Mais il attend quelquefois, dans certaines circonstances, que nous soyons devant lui avec cette prière persévérante qui va dire un peu comme Jacob, « Je ne te quitterai pas, que tu ne m'aies béni. » Voilà la prière persévérante. Je vais terminer avec ce passage du livre d'Hébreux, et je vous laisse aussi le temps de trouver ce passage, Hébreux chapitre 6, on va lire les versets 11 et 12. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi, mais aussi par la persévérance, hérite des promesses. » Et Dieu veut que tu hérites les promesses qui sont ton lot, qui sont ton partage. Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur. Mais il te demande de persévérer. Persévérer dans les voies du Seigneur, mais aussi à plus forte raison, persévérer dans cette prière, alléluia, qui obtient gain de cause. En conclusion, que dire? Juste rappeler ces trois attitudes barrières qui vont nous donner de rester fermes et inébranlable lorsque l'épreuve, quelle qu'elle soit, viendra nous défier quelque part. Et ces trois attitudes barrières, je voudrais encore les rappeler. Premièrement, c'est le fait de se réjouir en espérant. C'est par le biais de la foi qu'on peut arriver à vivre cette dimension. Deuxièmement, être patient dans l'épreuve. Si c'est à vue humaine impossible, par l'Esprit de Dieu, tout est possible. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et puis enfin, troisième attitude barrière qui ne peut que nous aider lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve, c'est le fait de persévérer dans la prière. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'épître de Jacques, il nous a dit « Si quelqu'un souffre alors qu'il prie, mon frère, ma sœur, tu as ce moyen de pouvoir communiquer avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui s'est engagé à pouvoir te donner tout ce dont tu as besoin et à plus forte raison, dans ce que tu sois victorieux dans ce que tu vis. » Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses et surtout nous aide à pouvoir les vivre, car c'est ça qui est important. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne continuation dans le Seigneur et je vous dis à bientôt. Amen.